confirmé te salama ki malam pe copé sa programme ze kolanda yo
le kambo fenzo et tong sak ba tuda kil kamba parole prophétique zakin de mwana
Légende panique.
Vincent Story, c'est quoi?
Panique, babelique et bibelac, et bibelac et babelique. Panique, bibelique, babelac.
Chapitre 27. Les langues jouent à cache-cache.
Daniel Simon, homme de théâtre.
J'écoute pas tout à Radio Panique. Je suis pas un branché en permanence. Mais c'est vrai que je suis surtout intéressé à Radio Panique par la question des langues. Voilà. C'est ça, les langues qui passent d'une bande horaire à l'autre, comme ça, et alors aussi le ton, évidemment, le ton, la façon de parler à Radio Panique, à côté de toutes les questions de création, puisque là j'écoute aussi des fictions, des documentaires, mais surtout ce qui m'a intéressé au départ, c'était vraiment la question des langues. Moi j'ai une obsession, c'est évidemment les langues qui se croisent, et Bruxelles est bien pour ça. Je ne crois pas du tout que c'est une ville qui est aussi multiculturelle qu'on se plaît à le dire. Je crois qu'il y a pas mal de ghettos apparents et qu'elle sera un jour multiculturelle quand les enfants auront fait des enfants, etc., etc. Maintenant, je dirais, ce sont des communautés qui se frottent les unes aux autres, qui se croisent. Il y a des lieux où ils se croisent plus. Et entre autres, Radio Panique. Voilà, c'est dans ce sens-là, quoi. C'est une agora. Mais c'est le principe à Tour de Babel, hein. C'est chacun parle sa langue, hein. Et c'est ça que moi j'aime bien entendre aussi. C'est pas uniquement le message, quoi, hein, mais c'est la façon dont les gens parlent, dont ils s'adressent à un auditeur qui voit pas. Mais très vite, quand on écoute Radio Panique, on sait que ces auditeurs, ils les connaissent d'une certaine façon. Enfin, on reconnaît dans le ton qu'ils s'adressent à des gens par des petits apartés, par une petite feinte, par un petit rappel d'une émission précédente, qu'il y a une sorte de famille communautaire qui écoute chaque bande d'émission, chaque bande horaire. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'entendre d'où les gens parlent et comment ils parlent aux gens qui sont pas là mais qui reconnaissent parce qu'ils les ont croisés quand même depuis quelques années, quoi. Mais ce qu'ils racontent, je crois pas que c'est toujours le plus important, mais sur aucune radio, hein. Non, sur aucune radio, je crois pas que c'est le plus important. Je crois que le plus important, c'est d'abord de pouvoir parler. De pouvoir parler sans retenue, je veux dire, hein. La deuxième chose, c'est de pouvoir parler en ayant le sentiment qu'on dit quelque chose de soi, ou de sa communauté, ou de son histoire. Et puis après, de parler à quelqu'un qu'on distingue, je veux dire, qu'on repère.
L'idéal interculturel de Panique, apporter sa part au Bruxelles métissé à venir, implique, lors des émissions, l'usage du français comme langue véhiculaire, afin de favoriser les échanges entre communautés ethniques diverses. Mais les animateurs sont très réticents.
C'est pas qu'on ne veut pas le français. Il y a déjà assez d'émissions à destination des francophones sur Bruxelles. On fait une émission tout à fait spécifique. Et bon, il y a des interventions qui sont à faire en albanais. Parce que bon, les gens, quand ils écoutent l'émission Illyria, bon, c'est pour entendre une émission en albanais. S'ils veulent écouter une émission en français, bon, ils attendent un peu plus tard ou un petit peu avant, ils ont une émission en albanais. Je crois qu'on doit respecter les auditeurs francophones aussi, quelque part, et on est obligé de parler aussi un petit peu en français, par respect pour ces auditeurs-là. Mais je crois que principalement, il faudrait continuer à parler le français, l'albanais.
J'ai jamais compris pourquoi lui ne veut pas parler, par exemple, aux Belges et qu'il me dit « ouais, je parle qu'aux Albanais ». Je l'ai compris beaucoup plus tard. Je me suis dit « voilà, c'est vrai que quelque part, s'il me traite de raciste, c'est pas à 100% vrai, c'est pas à 100% faux. C'est vrai que parfois, je sous-estimais avant l'impact que d'une émission en albanaise, en albanais, pour les Albanais, et que ça leur fait du bien. Et tant mieux. Un truc fou, c'est de se dire, par exemple, au moment du conflit kosovar, on avait des Kosovars en direct depuis l'Albanie, depuis le Kosovo, en plein conflit. Et tout était en albanais. Et puis, je lui dis au type responsable, je lui dis, mais tu as de l'info là que personne n'a, même pas le service public, des gens qui nous donnent un avis, bon, pertinent ou pas, on n'en sait rien, parce qu'il y a un parti pris, vu que c'est un Kosovar qui appelle. Mais en même temps, c'est des infos auxquelles on n'avait pas accès, quoi. Et je lui dis, c'est bête que les Belges ne sont pas au courant de ça, quoi.
Pourtant, il y avait eu le début d'une tradition avec Skippy, puisque... il y a déjà maintenant une bonne dizaine d'années, nous avions réalisé en français des émissions avec lui-même qui était présent à Tirana, en Albanie, lors des premières élections libres.
Mais là c'est un problème en Albanie. Comme quoi, c'est un problème beaucoup plus complexe, parce que c'est un peu de notre faute aussi, quoi. Rien ne nous empêcherait le matin de lui dire on fait un spécial Albanie et de l'appeler et qu'on reçoive ses Kosovars et qu'on traduit tôt ou en dehors de son émission. Mais là, il y a un manque de personnel, je trouve, purement journalistique, tu vois, des gens qui veulent faire que de l'info, ça se trouve vraiment rarement.
Il y a des moments où je fais, donc j'incorpore le français. Ça arrive, mais pas tout le temps, ça arrive dans certaines émissions. Et alors, dernièrement, avec les événements qui se sont passés en Albanie, avec tous ces événements dramatiques, j'ai commencé à ouvrir donc de rubriques en français pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, et là, je n'ai jamais été aussi, je peux le dire, je n'ai jamais été autant insulté par mes auditeurs que cette fois-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que les gens, ils ont tellement eu l'habitude de m'écouter dans ma langue qu'à partir du moment que je passe dans une autre langue, pour eux, c'est une insulte. Enfin, c'est comme ça qu'ils le considèrent. Maintenant, si je dois donner un avis personnel là-dessus, je dirais que c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose en français dans une émission unique. Hein. On ne peut pas tout le temps continuer dans sa propre langue de pouvoir expliquer, alors qu'on s'adresse à s'adresser à une communauté large. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que ici, la communauté, elle est quand même ciblée. Et quand on s'adresse à une communauté ciblée, c'est quand même difficile les écarts. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Mais ça reste à l'étude. Moi, je suis... Personnellement, je suis partisan de le faire, ça. Je ne vois pas d'inconvénient. D'ailleurs, il fut un temps où les informations, je les faisais quand même dans les deux langues. Et il y a quelques années de ça, je les faisais dans les deux langues. Je les faisais en français, en albanais. Mais à l'époque, on faisait des informations en français, l'intérêt n'était pas énorme. N'était vraiment pas énorme. Et je ne voyais pas... les gens dans la rue ne me parlaient jamais des informations qu'ils écoutaient en français. Ils me parlaient toujours ce qu'ils avaient écouté en albanais, mais ils ne me disaient jamais ce qu'ils avaient écouté en français. Et je me disais quelque part que je fais du travail pour rien. Et puis, au fur et à mesure que maintenant que les nouveaux réfugiés sont arrivés, ceux qui ne comprennent rien à la langue française, ceux-là, ils n'acceptent pas du tout que ce soit en français. Et il y a un écart, et pour moi, c'est un problème.
À maintes reprises, on essaye de lancer des émissions interculturelles avec le concours de tous les animateurs. On organise des repas et propose des fêtes interculturelles. Toutes ces initiatives sont volontaristes et restent éphémères. Seules deux réalisations s'approchent régulièrement d'une pratique interculturelle radiophonique. L'émission Écho du Sud de Marie-Laure Pou et Saïd Ounaoui et les émissions spéciales de Jardin Public. Au niveau musical, un esprit musique du monde existe dans la programmation non-stop.
DJ King Zone, Dream Machine, Ébullition... Les gens de panique.
Écho du Sud.
Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, pour pas généraliser, je suis conteur. Donc, toutes les autres cultures et tous les autres conteurs que j'ai rencontrés m'ont apporté quelque chose. Tous. Alors, je sais pas si moi, je leur ai apporté quelque chose. C'est ça la question. Mais je peux te dire que tous les conteurs d'autres cultures que j'ai entendus, alors j'ai entendu des Africains d'Afrique noire, des restes de griots, si je peux dire, J'en ai entendu raconter beaucoup. J'ai trouvé que c'était une... Enfin, pour moi, ça a été un apport extraordinaire. Je me suis mis à raconter des contes africains avec un conteur africain une fois. C'est pour ça que je regrette de ne pas être là à la nuit. Parce que c'est quelque chose de très très étonnant. L'imaginaire de l'Afrique noire est une chose tout à fait spécifique. Alors j'ai entendu des conteurs d'Afrique du Nord. C'est encore un genre tellement particulier. J'ai entendu des femmes raconter, des hommes raconter. C'est encore un homme. L'homme et la femme, c'est deux choses tout à fait différentes. C'est pas la même fonction dans la maison, dans la société, tout ça. Alors moi je les ai entendus, je les ai vus, ça m'a apporté énormément. J'ai vu par exemple des conteurs turcs, des achoks turcs qui racontent avec un sas, qui chantent toutes les histoires et tout ça. J'ai vu ça, c'est extraordinaire. Alors j'ai entendu des Chinois raconter, quand les tambours et tout, un raffut terrible, etc. Alors moi, tout ça, c'est énorme l'apport que ça m'a donné à moi. Mais moi, je suis rien de tout ça. Alors avec ça, et j'essaye de faire une... J'essaye, moi, Abby, conteur aujourd'hui, de faire une chose qui soit contemporaine. Mais c'est influencé de tout ça. Donc si tu veux, pour moi, l'échange des cultures, c'est même plus s'il est positif ou pas, il fait partie de la vie aujourd'hui.
En avril 1989, je propose aux Panikiens une sorte de manifeste. Je vois la réalisation de la volonté interculturelle de Radio Panique dans une dynamique expérimentale et collective d'échange et de mixage, et d'abord au niveau sonore. Il y va de déstabiliser les pôles centralisateurs et identitaires pour faire naître, et je cite Julia Kristeva, une démocratie à centre démultiplié, à nombreux foyers, sans cesse mouvants. La démocratie d'individus différents, apprenant à vivre ensemble, dans une logique de liberté et non de contrainte. J'explique que le sonore ne doit pas être abstrait des autres formes d'expression, des modes de vivre et des conditionnements sociaux et politiques des cultures. Radio Panique a tous les ingrédients pour préparer une bonne soupe interculturelle, mais la dynamique ne s'enclenche guère.
En dehors de l'objectif interculturel à long terme, le repli des émissions sur la langue d'origine cristallise trois niveaux de problèmes au sein de Radio Panique. Problème de la cohérence pour l'auditeur d'une telle mosaïque d'émissions en langues différentes. Problème de la maîtrise de la ligne éditoriale de la radio, si l'on ne comprend pas la langue de certains animateurs qui utilisent leur émission pour devenir leader reconnu dans leur communauté. Problème de la qualité des programmes. Ils ne sont pas rares les animateurs de ces émissions qui ont comme idéal de référence un format de radio commercial.
À ce moment-là, j'étais au conseil d'administration, en fait. Et je commençais un peu à développer une vision sur la radio ou des idées sur la radio, comment elle devrait être ou évoluer, patati patata. Et il y avait certains trucs qui m'énervaient au niveau des programmes, en fait. Bon, c'est pas toujours évident de... Tu peux exprimer des critiques ou bien des idées, tout ça, mais ça passe pas forcément chez les autres gens. Pour différentes raisons. Et alors, à ce moment, moi, j'ai dit, je vais faire un truc, une analyse totale de la programmation avec plusieurs gens. Comme ça, il y a vraiment un document, un vrai dossier, et ça aura plus de poids. Simplement que moi qui dis, regarde ça, j'aime pas ça, ça devrait bouger comme ça, et ça comme ci, comme ça. Et donc, c'était un peu basé sur une certaine frustration au niveau des émissions qu'il y avait sur antenne. Et donc, j'ai contacté plusieurs gens. J'ai demandé à plusieurs gens de participer, et donc par émission, il y a donc pour la première fois, je crois, à Radio Panique, une analyse totale de toute la programmation qu'on avait à ce moment-là. Et toutes les émissions ont été évaluées sur, je crois, trois critères, je crois. Donc c'était au niveau de la programmation musicale, la qualité technique, non, peut-être quatre, la qualité technique... l'approche créative, en fait, l'originalité du projet, peut-être. Donc, il y avait 3-4 critères. C'était vraiment fait comme si Sacha allait tester des produits. Et donc, il y avait des cotes. Comme dans un article Sacha, Et par émission, il y a eu 3 personnes en fait qui faisaient des cotes et qui donnaient leurs cotes. Et puis la cote finale qui était reprise dans le dossier, c'était la cote moyenne de ces 3 personnes. Et donc toute la programmation a passé, puis il y a un dossier qui a été fait et qui a été déposé au conseil d'administration.
Toutes les émissions des communautés d'origine étrangère se retrouvent dans le collimateur, mais plus spécialement la voix hellénique. Le responsable de cette émission estime que les critères du test écoute sont inappropriés pour les émissions des communautés étrangères. Il défend sa démarche d'accrocher le plus grand public possible dans sa communauté de référence par l'usage de la langue grecque et par la musique populaire, donc commerciale.
Notre public a un niveau culturel très bas. N'oubliez pas ses origines.
La dimension de l'interculturel ne l'intéresse pas dans le cadre de Radio Panique, car ses animateurs belges ne représentent qu'une minorité marginale. Bien que plus ouverte à la discussion, d'autres émissions des communautés d'origine non belge sont réticentes par rapport à nos exigences. Le malaise grandit. L'origine du problème vient-il d'un rapport de classe sociale ? Faut-il, oui ou non, accepter une radio panique à 2 vitesses ? On convoque dès lors une AG extraordinaire en octobre 1990. Au grand dépit de ceux qui veulent faire avancer les choses, c'est une position chèvre-choutiste qui prévaut. La cohérence de Radio Panique, c'est de gérer l'incohérence, jolie formule alors défendue par Philippe Dubois, et de pratiquer la tolérance. Les conclusions du test écoute ne seront pas appliquées.
Moi, ça fait longtemps, je crois que j'ai quelques mois après démissionné du conseil d'administration avec l'idée que ça ne bougerait jamais en fait. Je trouvais que le conseil d'administration était très conservateur en fait, qu'elle avait peur de prendre des décisions difficiles en fait, c'est ça. Et qu'elle était assez conservateur et peur qu'au niveau des finances, qu'on n'allait pas se retrouver si on était trop dur avec trop sévère avec ses émissions, tout ça. Ouais, j'ai senti ça.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 22 janvier 1991.
L'assemblée extraordinaire des animateurs a donné l'impression d'être pour la logique multiculturelle. Radio Panique comme mosaïque de sous-culture. Mais est-ce bien conforme à notre charte, que tout le monde a contresignée ? L'interculturel n'est-il pas devenu une sorte d'idéologie de l'assimilation ? La guerre du Golfe n'oblige-t-elle pas à réviser les conceptions ? Problème Nord-Sud. On décide d'une période de moratoire à ce sujet. 3 mois ?
C'est une proposition de Marcel et qui a été acceptée par le conseil d'administration à majorité. Et c'était... pour moi aussi, l'expression d'une volonté pour que les choses ne bougent pas, en fait. Les problèmes reviennent par après, ils disparaissent pas avec ça. Ce n'est pas parce que tu dis, ah, maintenant, pendant X temps, on ne va plus discuter, voilà. Et donc, ça ne résout pas du tout les problèmes, quoi.
Et oui, le problème ne disparaîtra pas. Finalement, le moratoire ne sera levé que fin 1994, lors de l'installation de Radio Panique à Dailly.
Et que personne ne l'oublie.